Qu'est-ce qui a bien pu motiver le roi Charles IX pour qu'il massacre son peuple le 24 août 1572 ? Alors c'est assez invraisemblable dans le contexte de l'époque où la fonction même du roi était d'assurer la paix, la justice et le salut de ses sujets. Alors Charles IX s'est un peu expliqué là-dessus à travers une belle médaille qu'il a fait frapper quelques semaines après ce massacre et qu'il a distribuée en grand nombre. Il montre d'abord sa fierté d'être l'auteur de ce joli massacre et il explique ainsi. J'ai pu écraser les rebelles avec une grande puissance, la piété, la foi, stimulant la justice. Alors la piété, la foi, stimulant la justice, c'est vrai que c'est un beau programme, mais pourquoi est-ce que les protestants sont ainsi considérés comme des rebelles ? Pourtant, l'amiral de Coligny était un ministre fidèle du roi, on ne peut pas le considérer comme un rebelle pour cela. Mais le protestant peut être vu comme rebelle à cause de sa liberté, effectivement, à cause de son indépendance d'esprit, qu'il soit prince ou qu'il soit savetier, il a ce sentiment de sa dignité personnelle devant Dieu qui l'autorise à avoir un avis, un point de vue personnel et se sentir responsable d'agir dans le monde, d'innover, de créer. Alors la liberté du protestant a donc été ressentie comme une terrible menace pour la piété et pour la justice, une menace contre la foi. Alors tout dépend de ce que l'on appelle par foi et par justice, bien entendu, c'est la question fondamentale. Mais au-delà même de cette question, la seconde question que pose cet acte de Charles IX, ce n'est pas pour le critiquer, mais c'est pour réfléchir nous-mêmes, la seconde question, c'est quel type de pédagogie nous sommes amenés à avoir quand nous discernons quelque chose de vraiment néfaste en face de nous, des méchants, des horreurs. Alors nous n'avons pas le pouvoir du roi de France au XVIe siècle, nous n'avons pas non plus le pouvoir des grands de ce monde comme Obama ou d'autres, mais cette question se pose pour nous de la même façon finalement, comment réagir quand il y a quelque chose qui nous semble vraiment problématique dans notre prochain, dans telle communauté, dans tel peuple, dans telle personne en face de nous. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que le massacre ou au contraire laisser faire n'importe quoi ? Y a-t-il d'autres solutions que l'injure ou simplement l'indifférence ? Alors, selon notre habitude, je vous propose d'aller chercher dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, ce que l'on peut trouver pour nous faire réfléchir sur cette question. Alors je vous propose d'ouvrir la Bible au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 24. Jésus leur proposa cette parabole. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et il s'en alla. » Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? Mais d'où vient donc qu'il y a de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi, un homme ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Mais veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez grandir ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, autre exemple, c'est dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. On voit Paul développer une pédagogie aussi face à un Timothée qui a un peu la batterie à plat. Et donc, on va pouvoir examiner un peu quelle est cette pédagogie pour le faire avancer. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, Que la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, cette foi sincère habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de bon sens. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puis je vous propose de chanter maintenant, avant de réfléchir quelques instants sur ces textes, le cantique 313 dans le petit recueil Louanges et prières, 343, cantique 343, « Seigneur, accorde-moi d'aimer. » Seigneur, oui, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de ta parole, source de nouveauté. Dans cette parabole du bon grain et du mauvais grain, Jésus nous aide à réfléchir sur la pédagogie que nous pourrions avoir face à l'homme néfaste ou à ce qui est néfaste dans l'homme. En effet, Jésus parle ici du royaume de Dieu et cela a tout à voir avec notre question, car cette expression « royaume de Dieu » n'est pas un lieu pour la vie future ici, mais cela évoque la façon dont Dieu règne en fait. Comment est-ce que Dieu agit en nous ou espère agir en nous et dans l'humanité? Et nous voyons que Dieu agit en semant de bonnes graines qui produisent de bons fruits. C'est la première et fondamentale façon, méthode, qu'a Dieu pour faire avancer les choses, les êtres et les peuples. Il y ajoute la patience, la légendaire patience de l'agriculteur, qui sait qu'il faut du temps entre le moment où il sème et le moment où il peut espérer récolter. C'est ce que Jésus décrit ici. Et puis il peut y avoir plein de choses qui arrivent entre le temps de la semaille et le temps des moissons. Alors la création est encore en lente genèse. Et de plus, nous dit ce texte, ce qui est malfaisant dans l'homme a semé de mauvaises graines. Oui, Dieu se retrouve ainsi devant une situation où il y a du mal et du bien qui coexistent dans le monde alors qu'il ne sème au jour le jour que du bien. Cela montre en premier lieu que Dieu n'a pas dressé de hautes murailles électrifiées pour empêcher toute intrusion, pour empêcher toute liberté. Son champ n'est gardé par aucune menace, mais il est ouvert à la liberté qui est donnée à chacun, assortie bien sûr de cette vocation que nous avons de garder et d'embellir encore la vie, comme nous le dit la Genèse. Quand l'homme sème de bonnes choses, il travaille dans le royaume, avec Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, et le roi Dieu se retrouve dans la même situation que celle dans laquelle se pense se trouver le roi Charles IX, face à cette libre foi protestante qui lui semble être un poison épouvantable dans son royaume. Alors c'est ce qui nous arrive. Quand notre prochain nous déçoit, ou quand nous nous décevons nous-mêmes, ou quand la vie nous déçoit. L'idée d'aller alors arracher les ronces et les orties est la première réaction. Et c'est la méthode Saint-Barthélemy. Jésus nous dit qu'en faisant cela, nous allons tout tuer, en fait. le bon et le mauvais ensemble, et que c'est donc une mauvaise méthode. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise méthode ? Eh bien, d'abord parce qu'il n'y a pas des personnes qui sont des mauvaises herbes et des personnes qui sont de bonnes herbes. Et donc, il n'y a pas des personnes à envoyer en enfer et puis des personnes à garder. Les racines du bien et du mal en nous sont complètement mêlées, en fait, en chacun de nous. Et puis ensuite, dans ce travail de purification, donc de chaque personne, de chaque communauté, de chaque peuple, ou en essayant d'arracher une mauvaise herbe, si vous voulez, quand nous arrachons une mauvaise herbe, nous laissons un trou, en fait, un trou dans lequel vont se précipiter sept plus mauvaises herbes encore, nous dit Jésus dans une autre parabole. Cela invite donc plutôt à planter du positif, plutôt que d'essayer d'arracher. On ne supprime bien que ce qu'on remplace, en fait. D'autant plus qu'il n'est pas facile de distinguer les bonnes herbes des mauvaises herbes, nous dit Jésus, tant que les fruits ne sont pas visibles. Donc il faut d'abord laisser pousser, puis après on voit mieux. Ce n'est pas facile de distinguer les bonnes herbes des mauvaises herbes, en fait, dans notre vie, dans les autres. Je me souviens d'un jeune Cambodgien qui faisait partie de notre troupe de scouts. Il avait en fait été enlevé par les Khmers rouges, alors que c'était un collégien de la ville, et on l'avait mis en rééducation dans des rizières. Et on lui a dit « t'enlèves les mauvaises herbes ». Et il a travaillé toute la journée à laisser des jolis liserons et puis à enlever les pauvres brins d'herbe qui étaient en fait le riz. Alors ça n'a pas été un grand succès. Eh bien Charles IX non plus n'est pas très bon dans la lecture des bonnes et des mauvaises herbes en fait. Et puis en plus il est très mauvais en choisissant d'arracher, même si c'était des mauvaises herbes, c'est pas comme ça qu'on fait. Même Dieu ne peut pas faire n'importe comment, n'importe quand, le travail délicat de purification de l'humain. La pédagogie demande une vraie finesse. Il faut des moissonneurs, nous dit Jésus, des moissonneurs professionnels pour cela, des professionnels qui vont être envoyés par Dieu au bon moment pour moissonner, pour trier, pour garder soigneusement le meilleur dans les greniers de Dieu. Alors, quels sont ces moissonneurs ? Ce ne sont pas les personnes à qui Jésus s'adresse là, sinon il aurait dit « Attendez, je vous dirai quand et comment il faut aller pour purifier les autres et le monde et vous-même. » Jésus ne se prend pas lui-même non plus pour un moissonneur, il dit « Moi, je ne juge personne. » Mais il doit sentir quand même le risque que les apôtres se prennent pour des chevaliers blancs, et il leur précise un peu plus loin que les moissonneurs, en fait, ce ne sont pas eux, ce sont les anges de Dieu. Alors les anges, bien sûr, ce n'est pas une catégorie de bêtes invisibles à plumes. L'ange moissonneur, c'est la parole de Dieu, en fait. L'ange moissonneur, c'est sa lumière, la lumière de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui garde le meilleur en nous et qui élimine ce qui est mauvais. C'est l'amour qui peut faire ça, qui a cette puissance de garder le meilleur et de supprimer le mauvais. Et c'est par l'amour que Dieu nous rend capables de vivre et qu'il peut aussi nous aider à avancer dans cette purification. Et c'est ainsi par un travail de l'intérieur de chacun que Dieu cherche à ensemencer et à purifier le monde, et nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'il travaille en Christ. Il ne coupe pas les têtes, on ne voit pas le Christ étriper les méchants, les mauvais. Non, il sème, il bénit, il annonce que le temps de la confiance est venu pour que chacun puisse s'ouvrir. Et puis le Christ patiente et il aime. Mais même si l'on n'arrache pas la mauvaise herbe, on peut se demander s'il ne faudrait pas quand même une pédagogie un peu plus ferme que celle de la réforme protestante et de sa liberté tous azimuts. Elle a eu comme priorité de donner à chacun, même au plus simple, la possibilité de savoir lire, de pouvoir lire la Bible dans sa langue. Et il encourage chacun, même les plus simples, même les moins cultivés, à avoir sa propre interprétation de la Bible, une prière personnelle, cœur à cœur avec Dieu, le tutoyant comme un frère, même pas le vouvoyant comme un père à l'époque. Et cela a rendu immédiatement la foi, oui, plus sincère, plus authentique, plus confiance en Dieu, très bien, mais on comprend quand même la crainte du roi devant la liberté de penser de ses sujets. 1000 risques nous viennent facilement à l'esprit. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux cadrer les choses avec un bon contenu théologique, moral, bien solide, ainsi que des règles qui baliseraient les points essentiels de la vie de tous les jours ? Est-ce qu'il ne faudrait pas motiver les gens à respecter, bien respecter ce cadre avec la menace de sanctions et puis la promesse de carottes ? Encadrer étroitement aussi les penseurs, les enseignants, les ministres, afin de garder au maximum ce qui semble être le plus raisonnablement la vérité sur le salut, finalement, la vérité du droit, de la pensée, de la religion juste. N'est-ce pas là, finalement, plus sage pour optimiser la paix et le salut pour le grand nombre ? Eh bien, en tout cas, ça ne semble pas être la pédagogie que propose le Christ à travers sa parole et à travers ses actes. En effet, le contenu même de l'Évangile, des paroles de Jésus, est aux antipodes d'une somme théologique bien carrée, bien structurée. Non plus un code moral ou une loi religieuse à appliquer à la lettre, non, ces paroles et ces actes sans arrêt posent 1000 questions, en posent plus qu'elles n'en répondent. Alors ce n'est pas un savoir ainsi tout prêt à penser et à suivre dans l'obéissance qu'il nous propose. C'est plus un discours sur la méthode, c'est une façon d'être. En gros, ce que Jésus propose est bien résumé dans la première phrase qu'il dit quand il ouvre la bouche dans le sermon sur la montagne. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Tout est là, en fait. Il y a le projet de Dieu pour nous, le bonheur et la vie dans le temps présent, au présent, pas simplement au futur. Ce royaume qui est en fait l'action créatrice de Dieu est à recevoir pour nous tout de suite. Et puis il y a l'idée que nous ne sommes pas tout seuls avec notre petit salut perso au singulier, mais que le salut est au pluriel avec les autres. Et sur la base de cette confiance à Dieu, il y a une méthode proposée, une invitation à recevoir l'action de Dieu en nous en ayant faim de l'esprit créateur de Dieu. En ayant faim de cet esprit, en le demandant comme le pauvre frappe à la porte du riche, en demandant du pain à un homme dont il sait l'infinie bonté, pardon et richesse de bienveillance. Et puis dans l'Évangile, nous voyons Jésus agir finalement selon cette méthode. Il apporte un coup de pouce sans jugement, une guérison, un enseignement, un pardon, un encouragement. Il va chez les trop religieux, les pas assez, chez les païens, chez les... Voilà. Il conclut, en général, sa guérison, son enseignement, son encouragement par un « va en paix sur ton propre chemin ». Et donc, il n'enferme pas dans une loi, il n'enferme pas dans un chemin tout tracé, il n'enferme pas dans des choses à faire, dans des rites, dans des dogmes. De toute façon, l'essentiel ne se commande pas, en fait. On ne peut pas contraindre quelqu'un par la menace à faire confiance en Dieu, c'est tout simplement contradictoire. On ne peut pas commander l'ouverture du cœur à l'espérance, ça ne marche pas comme ça, ni la compassion aux autres. On ne peut pas commander à quelqu'un d'avoir la paix en lui-même, ça ne marche pas comme ça. Alors pourtant, nous sommes des enfants en fait, nous avons besoin de repères, nous avons besoin d'affirmations théologiques structurantes pour notre pensée. Nous avons besoin de catéchisme pour témoigner. Nous avons besoin de rites et de pratiques pour nous entraîner à faire place à cet invisible de la grâce de Dieu en nous, dans notre vie. Certes, nous devons définir ces outils, mais à condition qu'ils ne prennent pas la place de cadre fixe, structurant, menaçant que Jésus s'est lui-même refusé de nous donner. Et c'est excellent qu'il ne nous ait pas donné ces outils pratiques de base dont nous avons besoin. Parce que du coup, c'est à nous de les construire au jour le jour, et nous savons alors très bien que ce sont des outils forgés à main d'homme, finalement, dans des circonstances données, et qu'ils sont à personnaliser, à adapter, à y faire évoluer. Alors, quelle pédagogie est-ce que Jésus propose pour faire face aux mauvaises graines qui poussent parfois donc dans l'humanité et en nous-mêmes? Il propose d'agir comme Dieu et avec Dieu, comme ouvrier de son royaume. En travaillant de l'intérieur, en semant du bien et du bon, en cultivant, en développant, en valorisant, en encourageant tout ce qui est bon. dans l'autre aussi, en nous-mêmes, dans la vie. En essayant de faire que ça porte du fruit, et puis d'aimer ce fruit quand il vient, de l'aimer, de s'en réjouir, de le garder d'autant plus finalement que le fruit est arrivé dans une personne, dans une communauté, dans une église, dans un parti, dans un peuple qui n'est pas parfait. Et ainsi, on se fait une arme finalement de tout ce qui est positif, de toute bonne idée, de tout bon geste, de toute étincelle de foi, d'espérance et d'amour. Et c'est ainsi qu'on voit Paul chercher à aider son excellent Timothée qui a manifestement les batteries à plat et qui déçoit l'apôtre Paul alors qu'il compte vraiment sur lui pour prendre sa suite. Paul commence par lui dire l'affection qu'il a pour lui. Nous ne le faisons pas assez, mais c'est les premiers mots de Paul. Ensuite, puisqu'il est question de regonfler Timothée dans sa foi, il lui dit qu'il y a en Dieu que pure bienveillance gratuite, grâce, miséricorde, amour. Et ça ouvre effectivement les bases, non pas d'une crainte de Dieu, mais d'une confiance en Dieu, aux antipodes finalement de toute menace d'un Dieu terrible qui va le griller s'il ne fait pas face à sa vocation. Paul fait ensuite appel à la mémoire de ce qu'il y a de meilleur dans le souvenir de Timothée. D'abord, Paul invite Timothée à se nourrir, à s'inspirer de la foi sincère et vivante de leurs ancêtres. Et oui, cette fidélité, cette mémoire de l'histoire est aussi une façon déjà de rechercher le meilleur et de le remettre sur le dessus. Pourtant, ces ancêtres de Paul et de Timothée n'étaient pas chrétiens, c'étaient des juifs. Et donc leur théologie, leur pratique religieuse était différente de celle que Paul et Timothée avaient alors. Mais c'est donc au-delà de la théologie, au-delà de la religion, que Paul nous invite à reconnaître la foi sincère de ceux qui nous ont aimés, de ceux qui nous ont précédés, sans s'arrêter à l'accessoire, finalement, au détail. Paul fait mémoire ensuite de la foi sincère de Timothée lui-même et de moments d'émotion partagée. Oui, revenir sur ces bons moments, finalement, de foi, d'émotion, du passé. Et là encore, ce qui est valorisé, c'est essentiellement la sincérité et c'est la profondeur de l'être, du cœur qui se tourne vers Dieu. Ce n'est pas que Paul méprise la théologie ou la religion, il va travailler, bien sûr, là-dessus, c'est un théologien, un bâtisseur d'église formidable, mais c'est second, finalement, là aussi, c'est contingent, cela. Ce sont plus pour lui des outils au service de la foi sincère de chacun. Comme ce geste, d'ailleurs, de l'imposition des mains que Paul a fait sur Timothée quand il a choisi de vivre de la foi du Christ. Ce n'est pas le geste qui fait vivre, mais c'est le don de Dieu, nous dit Paul. C'est comme une flamme de feu qui éclaire, qui réchauffe et qui nous purifie de l'intérieur. Le geste de Paul de l'imposition des mains, c'est un simple moyen qui invite à se laisser créer par Dieu, finalement. Et là encore, le salut n'est pas une question d'être marqué ou non dans un registre ni sur terre ni au ciel, mais d'être au bénéfice d'un acte de Dieu, un acte de création, aujourd'hui et maintenant. Alors le geste liturgique de Paul a été utile, tant mieux. Maintenant, Paul aurait besoin de pouvoir aussi donner un geste à Timothée, car il a besoin visiblement encore d'un petit coup de flamme du don de Dieu. Mais comme Paul et Timothée sont éloignés par la distance, il ne peut pas donner ce geste d'imposition des mains, mais qu'importe. La parole peut agir également, finalement, le geste et la parole sont tous les deux du signe. La parole agira même peut-être mieux chez telle ou telle personne à tel moment de sa vie qu'un acte liturgique qui aurait pu la piéger dans du ritualisme. Alors cette parole que Paul offre à Timothée, elle est essentielle. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de bon sens. La pédagogie du dressage avec un cadre fixe et des sanctions nous donne un esprit de crainte de Dieu. Crainte de perdre notre vie, crainte de devenir indigne. Or, comme le disent et le répètent Paul et Jean, nous ne sommes plus sous la crainte de Dieu, car son amour parfait a été révélé en Christ, et cela a chassé toute crainte de Dieu. Cette confiance nous donne, au contraire, un esprit de force, d'audace. Et c'est vrai que nous avons tous des moments de découragement, comme Timothée, et alors que nous avons besoin les uns des autres et besoin de Dieu, Paul nous dit, « Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, alors nous avons besoin de cette force qui vient de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est aussi un esprit de force, car avec lui nous sommes dans la confiance, conscients de notre dignité, conscients que nous n'avons pas simplement à suivre, mais à inventer, à innover, à créer, à oser nous poser des questions et à apporter des réponses nouvelles, personnelles. Un esprit de force, donc, nous dit Paul, mais aussi un esprit d'amour. Ce n'est pas un esprit de force pour persécuter au nom de la vérité et de la justice, même si nous savions pertinemment quelle était la vérité et la justice. Mais quelque chose de la force de Jésus-Christ qui s'engage par amour, qui a le courage de ne pas se faire que des amis parfois, mais par amour et pour l'amour. Un esprit de force et d'amour, et Paul ajoute un esprit de bon sens. Un esprit de raisonnabilité. Alors la force, l'amour et le bon sens. Trois dons de Dieu excellents, en fait. Une pédagogie qu'il a pour nous et que nous pouvons avoir. Une trinité gagnante face à la méchanceté. Une pédagogie divine refusant absolument l'idée même du meurtre au nom de Dieu, aussi bien dans ce monde que dans la vie future, car Dieu est le Dieu de la vie. Amen.